temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous. Dans moins de 5 minutes, Sportrama, ce sera avec Bagassi Koura. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. Jean-Roger Billon à ce micro. En Tunisie, l'ex-premier ministre Béji Caïd Essebsi a remporté la présidentielle de dimanche devant le président sortant Monsef Marzouki. Des précisions avec Eddy Sango.
L'instance électorale a annoncé la victoire de Béji Caïd Essebsi avec 55,68% de voix. Victoire que les camps de ces derniers revendiquaient déjà dès la fermeture des bureaux de vote dimanche. D'après l'instance supérieure indépendante pour les élections, M. Caïd Essebsi a obtenu plus de 1,7 million de voix au second tour, contre plus de 1,3 million pour son rival, Monsef Marzouki, le président sortant, qui a plutôt réuni 44,32% des suffrages. Les taux de participation s'étaient établis à 60,1% des inscrits. Les présidents sortants, Monsef Marzouki, a reconnu sa défaite à la présidentielle et félicité les vainqueurs Béji Caïd Essebsi, selon une annonce faite sur sa page officielle de Facebook. M. Marzouki avait, lui, été élu pour 3 ans par l'Assemblée constituante à la faveur d'un accord politique avec les islamistes d'Ennahda. Deux heurts ont éclaté lundi dans le sud de la Tunisie où certains habitants protestaient contre les résultats de la présidentielle.
Au Nigeria, l'explosion d'une bombe a fait au moins 20 morts et 21 blessés dans une gare routière de la ville de Gombe. C'est la deuxième fois cette année que cette station de bus est attaquée. Une voiture piégée avait fait 10 morts au mois d'octobre. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais le nord-est du Nigeria est une région régulièrement frappée par le groupe islamiste Boko Haram. En RDC, un haut responsable local a dit aujourd'hui à l'AFP que 7 personnes ont été tuées et 5 grièvement blessées par des hommes armés dimanche soir dans un secteur minier de la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Selon le chef du village de Mushinga, où se trouve le carré minier de Mukugwe, l'attaque a été menée par des hommes habillés en civil, puis 8 policiers affectés à la protection du carré minier sont intervenus en tirant plusieurs balles, ce qui a fait fuir ces bandits. Le frère de Bertrand Bilal Nzoua Bonayo, français d'origine burundaise, abattu samedi en France après avoir agressé des policiers dans un commissariat du centre de la France, a été arrêté à Bujumbura, la capitale du Burundi. Selon le service national du renseignement, les enquêteurs burundais cherchent notamment à savoir quand les frères nés dans une famille chrétienne et qui ont immigré en France en bas âge ont basculé dans l'islamisme pur et dur et vérifié s'ils ne préparaient pas un attentat au Burundi.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Escalade dans le froid entre Washington et Moscou, les États-Unis ont décidé de remplacer par des citoyens américains tous les employés locaux ayant rang de superviseur dans leur ambassade et consulat en Russie. La mesure intervient alors que les relations entre les deux pays en sont à leur niveau le plus bas. Elle est prescrite par un projet de loi sur les renseignements introduit en mai par le député républicain Mike Rogers du Michigan et approuvé par le Congrès le 9 décembre. On s'attend à ce que le président Barack Obama promulgue la loi avant la fin de l'année. Et dans un discours aujourd'hui aux membres de la Curie au Vatican, le pape a eu des mots durs pour ses proches collaborateurs, Camille Grosdidier.
Lors de la présentation de ses vœux de Noël, le pape a développé une réflexion sur le thème « La Curie romaine et le corps du Christ ». D'un ton très ferme, le souverain pontife a évoqué les nombreuses tentations qui peuvent guetter les membres de la Curie, appelant à un examen de conscience de chacun et invitant à une purification. Qualifiant l'Église d'hôpital de campagne, le pape a repris la métaphore du corps malade affaibli par ses péchés. Parmi eux, l'absence d'autocritique par la curie qui pourrait mener à un Alzheimer spirituel avec l'oubli de l'histoire du salut dans la vie. La mondanité, l'autoglorification, le carriérisme et l'opportunisme, le service se mutant alors en soif du pouvoir, ce qui peut mener à la calomnie ou la diffamation. Gardons-nous du terrorisme des bavardages, a lancé le pape. On dit que les prêtres sont comme des avions, on parle d'eux quand ils tombent, mais tant d'autres arrivent à voler.
Merci Camille Grosdidier. Sans transition, le sport, c'est Sportrama sur VO Afrique et c'est avec Bagassi Koura maintenant.
Sport, 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 Oui, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cet avant-dernier numéro de Sporama de l'année. Ce soir, nous avons plein de sujets à couvrir. Nous allons parler des tirages au sort de coupes africaines, de la Coupe du Monde des clubs qui s'est achevée ce samedi, du basketball, mais aussi de ce que vous avez retenu, ce qui a retenu donc votre attention sur le plan sportif cette année. Vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de Sporama. Et nous attendons bien sûr vos appels en direct. Composez le 001-202-619-3140. Avec nous ce soir, nos consultants. D'abord, l'incontournable Jules Valentin Gouë à Libreville. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, Magassi. Bonsoir à tous.
Voilà, on compte aussi retrouver Salif Kabore qui est au Burkina Faso. Je crois qu'il est à Koudougou. Hein, et nous allons avoir aussi Roger Stéphane en ligne d'Abidjan. Et donc, en attendant, on commence donc avec vous, Jules, hein, pour parler de ce tirage au sort de la Coupe Junior. Le tirage au sort donc qui a eu lieu de moins de 20 ans, qui a eu lieu donc ce 21 décembre 2014 au Caire. On me signale que Salif est en ligne. Bonsoir, Salif.
Bonsoir, Salif. Bonsoir, Salif.
Voilà, on a quelque peu du mal à vous entendre, mais je crois que peut-être d'ici là, la ligne va s'améliorer. Et donc, ce tirage au sort de la Coupe d'Afrique des juniors a donné deux groupes. D'abord, dans le groupe A, le Sénégal et le Nigeria, le Congo et la Côte d'Ivoire. Ces quatre équipes donc se retrouvent dans ce groupe A. Dans le groupe B, on aura Ghana, Afrique du Sud, Mali et Zambie. Jules, une première réaction sur la composition d'abord du groupe A, Sénégal, Nigeria, Congo, Côte d'Ivoire.
Oui, mais là, on retrouve des pays qui, en fait, sont des pays de formation, notamment le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qui nous apportent toujours régulièrement des bons crus, de jeunes remarquables qui font généralement carrière par la suite. Le Sénégal est aussi dans cette lignée. Et le Congo, depuis qu'il a gagné sa coupe des juniors à domicile, s'est aussi mis dans cette philosophie. Donc je crois que ce sera une poule où nous aurons à découvrir des jeunes talents.
Alors, Salif, est-ce que vous voyez parmi ces quatre équipes-là, alors on me dit que Salif nous a quittés là. Alors, Jules, donc je vous renvoie cette question qui était adressée à Salif d'abord. Est-ce que vous voyez parmi ces quatre équipes une qui se dégage du lot, qui pourrait être considérée comme l'équipe favorite?
Non, mais quand on voit la distribution, et tout de suite le nom du Nigeria frappe, hein, le Nigeria a un réservoir énorme et il suffit seulement qu'il y ait de l'organisation et une bonne prospection. Il nous présente toujours une grande sélection. Donc je vois le Nigeria qui peut-être sera secondé de l'équipe qui sera le mieux organisée entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Congo.
Alors voilà quelqu'un qui est en ligne qui pourra nous parler des éléphantos. Hein, c'est Stéphane C à Abidjan. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir mon cher Magassi.
Alors, quelles sont les chances des éléphantos dans ce groupe-là avec le Sénégal, le Nigeria et le Congo?
Ben écoutez, nos chances sont grandes, hein, nos chances sont très grandes. Déjà qu'on revient dans cette compétition après avoir manqué les deux dernières éditions, c'est une équipe ivoirienne qui a fait une brillante qualification pour donc se qualifier pour cette Coupe d'Union. Et on a mis un point d'honneur à préparer véritablement cette compétition. Il se trouve que certains de nos garçons dans cette équipe, dont le porte-flambeau s'appelle un certain caissier Franck Yannick, ça a été la grosse révélation du football ivoirien de cette année, le jeune capitaine de l'équipe nationale ivoirienne qui a été passé, promu chez les seniors. Et bien, c'est lui qui va porter cette équipe ivoirienne qui a toutes ses chances à jouer. C'est vrai qu'il y a le champion, le roi incontesté dans la poule qui est le Nigeria qui va peut-être au-dessus du lot. Ça va être un peu plus difficile peut-être face au Sénégal, le pays organisateur à domicile, mais face au Congo, c'est jouable. Je pense que la Côte d'Ivoire a une grande chance dans cette compétition, qui pour le reste, elle aura le souci d'abord de marquer son retour au premier plan, parce que ça a été fait à plusieurs reprises avec les seniors. On en parlera peut-être des cadets tout à l'heure. C'est fait également avec les filles qualifiées pour la Coupe du Monde. Donc c'est une Côte d'Ivoire qui revient au premier plan en termes de football et présente dans toutes les compétitions. Et cette CAN des juniors, les Ivoiriens auront à cœur de marquer un grand coup pour confirmer que notre nation reste véritablement un grand pays de football.
Voilà pour le groupe A. Et dans le groupe B, on retrouve le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali et la Zambie. Jules, le Mali qui est perdu au milieu de ces pays anglophones.
Oui, perdu au milieu de ces pays anglophones, mais des pays anglophones qui jouent un peu le même football, un hein, football, un jeu court et souvent très technique, et disons que qui fait moins la part belle à la présence physique, et c'est dans ce registre que le Mali fait parfois la différence, parce que le Mali, c'est d'abord un bloc défensif impressionnant, et même dans la catégorie des jeunes, on voit souvent des joueurs très... avec des gabarits impressionnants qui peuvent à tout moment, surtout sur les balles aériennes, les coups de pied arrêtés et les contre-attaques faire la différence.
Voilà, et donc il faut signaler que le tenant du titre, hein, l'Égypte, n'est pas qualifié pour cette 19e édition. Et les demi-finalistes de cette CAN junior iront en Coupe du Monde 2015 des moins de 20 ans, donc du 30 mai au 20 juin en Nouvelle-Zélande. Voilà. Voilà, la CAF a effectué aussi ce lundi hein, le tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des Champions. 58 clubs étaient au départ de ce tirage qui avait exempté 8 formations. Il s'agit notamment du champion d'Afrique en titre, l'Entente sportive de Sétif du Coton Sport de Garoua au Cameroun, l'AC Léopard de Dalhousie, le tout-puissant Mazembe de la RDC, CS Sfaxien et l'Espérance de Tunis. Quelques affiches à noter au cours de ce tour préliminaire. Donc, le Cercle olympique de Bamako affrontera le Maghreb des Tétouan du Maroc qu'on a vu récemment à la Coupe du Monde des clubs. Les Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud seront face aux Township Rollers. Le Sewe Sport San Pedro, finaliste de la Coupe de la Confédération de la CAF, sera face à l'AS Kaloum de Guinée. Et réaction ce soir de Rigo Gervais, l'entraîneur du Sewe Sport.
Bon, je pense que toutes les équipes se valent. Hein. En Afrique, je pense que c'est une équipe à prendre très au sérieux.
Et c'est une équipe que vous connaissez bien?
Bon, je pense qu'on connaît bien le football guinéen. Et puis, les Kaloum n'ont pas été champions par hasard. Il faut les prendre au sérieux et puis il faut préparer ce match avec tout le sérieux.
On imagine que le fait d'avoir joué la finale cette année va vous pousser encore l'année prochaine à aller jusqu'en finale et pourquoi pas la Coupe.
Je pense que tout ce qu'on a fait en Coupe CAF, on aimerait le plus réussir au niveau de la Ligue des Champions. Donc on aura vraiment à cœur de ces dates, de tout faire, de profiter de notre expérience pour pouvoir aller très loin dans cette compétition.
Est-ce qu'il y a une réorganisation de l'équipe qui est prévue avec de nouveaux joueurs notamment?
Oui, progressivement, parce que c'est vrai d'avoir de nouvelles recrues, mais il faut pouvoir les intégrer dans l'équipe. Donc nous y allons progressivement. Je pense que progressivement, on va réussir à les incorporer dans l'équipe, puisqu'il y a d'autres qui sont annoncées par temps. On va réussir à refaire ce milieu-là et encore à tout faire pour pouvoir vraiment aller très loin dans cette compétition.
Un mot pour revenir sur cette finale. Hein. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Bon, on a manqué d'efficacité. Je pense que vu les occasions qu'on s'est créées, on pouvait tout de suite avoir ce but direct, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir ce but-là. Et au moment où on voulait chercher à conserver ce qu'on avait déjà, il nous restait 40 secondes et je pense que on a été déçus, mais je pense que on a tout mis sur le compte spirituel. Je pense que c'est Dieu qui l'a voulu. Il faut avoir la force de repartir et nous donner le moyen d'avoir cette force-là pour pouvoir repartir. Nous savons que nous avons livré une bataille et puis nous l'avons fait, nous pouvons encore éviter le mine d'espoir puisque nous avons toute notre chance de notre côté.
Voilà, c'était donc Rigo Gervais, l'entraîneur du Sewe Sport San Pedro. On me dit qu'on a retrouvé Salif Kabore au Burkina. Je crois qu'il est à Koudougou, hein, dans le centre du Burkina. Salif, vous avez entendu hein, Rigo Gervais qui reste très ambitieux, mais il aura en face une équipe montante de l'AS Kaloum.
Oui, tout à fait. Benassi Koura, merci beaucoup parce que après leur match raté en Ligue des Champions, j'ai regardé l'un des matchs de Sewe Sport de San Pedro donc en championnat. Et je dois dire que si l'équipe va continuer en tout cas à évoluer comme moi je l'ai regardé, et ça va être très difficile parce que en Guinée aujourd'hui, bon, les équipes sont en train de monter. C'est une nouvelle Guinée en tout cas qu'on nous présente actuellement sur le sujet du football africain. Donc il va falloir véritablement qu'au niveau de la carte, si le Sewe Sport de San Pedro veut rééditer en tout cas les mêmes sensations que cette année, il va falloir que l'équipe travaille beaucoup, surtout au niveau de la finition. On a constaté beaucoup de déchets, et même en finition, c'est ça qui a beaucoup manqué. On n'avait pas l'élément là qui pouvait aller véritablement aux campagnes de responsabilité. Alors que dans une équipe, quand on atteint ce stade de la compétition, il faut des individualités, surtout au niveau de la finition. Ça a beaucoup manqué. Alors que la Guinée, comme je viens de le dire, Bagassi, c'est une nouvelle Guinée avec beaucoup d'éléments très, très essentiels qui peuvent faire la différence à chaque instant du match.
Voilà, il faut aussi souligner que la CAF a procédé aussi au tirage au sort des rencontres du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération qui, donc, ce tour préliminaire aura lieu en février prochain. Et donc, on aura certaines oppositions à signaler. Hein. On aura le Al Ittihad de Libye qui sera opposé à Electo Sport du Tchad, hein, Unusport du Haut-Nkam du Cameroun. Jouera contre l'Olympique de Ngol, le Heart of Oak du Ghana joue contre l'AS Police hein, et le RCB du Burkina Faso, donc à Bobo-Dioulasso, va affronter le Wari Wolf du Nigeria et l'Étoile du Congo va jouer contre le FC MK de la RDC. Les Panthères du Yaoundé joueront contre le Rayon Sport du Rwanda. Les Panthères du Yaoundé, c'est bien sûr au Cameroun. Jules, quand vous voyez ces oppositions-là, est-ce que vous voyez des équipes qui pourraient facilement tirer leur épingle du jeu?
Oui, bien sûr. D'abord, il faut savoir que cette compétition est surtout faite pour révéler les équipes. Et à ce jeu-là, on a quand même de vieilles sélections qui nous reviennent là, comme le Heart of Ox, qui est quand même un grand d'Afrique, l'AS Police et du Sénégal, qu'on a un peu oublié, mais oui, qui était le pendant du Jaraf pendant lors des années 70-80. Et les Warriors aussi ont marqué leur temps. Panthère d'Yaoundé est un trouble fait au Cameroun, surtout pour la Coupe du Cameroun depuis longtemps.
Et puis il y a Dynamo Power.
En fait, et on verra ce qu'elles feront sur le terrain.
Oui, je signalais qu'il y a aussi parmi les équipes qui reviennent, hein, qui avaient fait le beau temps à l'époque, il y a le Dynamo Power de la Zambie. Hein.
Oui, bien sûr. Qui était un des grands de l'époque avec le Canard de Ville.
Oui. Alors, Salif, vous avez hein, le Racing Club de Bobo-Dioulasso qui va jouer contre le Nigeria. Le Racing qui tient en ce moment la tête du Faso Foot, je crois.
Oui, avec la Crédoc qui a remporté hier la 22e édition de la Super Coupe HSC. Ouais. C'est la Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina Faso. Donc, c'est une équipe du RCB qui s'est imposée hier seulement dimanche 2-0 face à l'équipe championne du Burkina. Elle n'est pas le final de Ouagadougou. En tout cas, il faut dire que le RCB est en train de créer la surprise ici. C'est une équipe en pleine forme actuellement et même malgré son match en retard hein, dans le cadre donc, du développement du championnat de première division, le RCB se paye le luxe toujours d'occuper le podium de leader. Donc, ça peut vous dire tout simplement que cette équipe-là peut-être est à craindre hein, dans international, en tout cas pour cette année. En tout cas, l'objectif des responsables du RCB cette saison, c'est de rentrer dans le carénage.
Voilà, vous suivez ce programme sur la VOA, VOA Afrique, donc en direct de Washington, au micro Bagassi Koura en ligne sur le continent. Nous avons nos consultants. D'abord, Jules Valentin Gouet à Libreville au Gabon. Nous avons Salif Kabore au Burkina Faso et Stéphane Nse à Abidjan. On va donc sur cette Coupe du Monde des clubs remportée hier par le Real Madrid qui s'est imposé 2-0 ce samedi plutôt lors de cette finale de la Coupe du Monde des clubs à Marrakech contre les Argentins de San Lorenzo. Sergio Ramos et Gareth Bale sont les deux buteurs d'une rencontre presque à sens unique. Stéphane, comment vous avez vécu cette rencontre, ce tournoi?
Bon, il est clair qu'il y avait un très gros favori dans cette compétition, ouais, c'était l'équipe du Real de Madrid.
C'était un peu déséquilibré.
Prend le trophée et s'en va. Donc le Real de Madrid n'avait pas véritablement d'adversaire dans la compétition. seule cette équipe, l'Argentine, pouvait peut-être barrer la route aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Ça n'a pas été le cas. Première victoire 4-0. Deuxième match 2-0. Ça montre clairement que le Real de Madrid était nettement au-dessus de la compétition. Les Espagnols qui remportent donc cette 11e audition et qui montrent le trophée, le nombre de trophées des équipes de l'Europe à 7 contre 4 pour les équipes de l'Amérique du Sud. Ce tournoi, moi, mon point de vue, c'est que de façon générale, il y a un écart énorme entre les équipes de l'Europe qui gagnent toute cette compétition depuis des années avec les autres équipes, que sont les clubs africains, de la CAF, la CONCACAF, le CONMEBOL, etc., etc., qui n'arrivent pas vraiment à s'imposer face aux équipes de l'Europe. Hein, les pays trop puissants, des clubs trop puissants comme le Real Madrid qui arrive et qui gagne. Le seul inconvénient, c'est qu'on attendait tous de voir Cristiano Ronaldo qui, malgré tous ses efforts, n'a pas réussi à inscrire un seul but dans cette compétition. Eh bien, le Real Madrid donc finit en beauté son année avec cette compétition. 22e match d'affilée, 22e victoire d'affilée, ben ça montre tout simplement qu'il y a un grand écart entre le Real de Madrid et toutes les autres équipes qui ont participé à la compétition. Félicitations tout de même à l'entente ce titre, le vainqueur de la Ligue des Champions en Côte d'Ivoire, qui a terminé 5e de la compétition.
Voilà, il faut signaler que les équipes africaines ne sont pas allées loin dans cette Coupe du monde des clubs. Et direction le Bénin à présent, une réunion de crise à la Fédération béninoise de football, une assise qui a eu lieu entre le bureau exécutif et la Ligue afin de statuer sur le démarrage du prochain championnat national de football 2014-2015. Plus de précisions avec Élisée Mpatine.
Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette réunion, notamment la reprise du prochain championnat national de football de la première division pour le 27 décembre. Pour rappel, la Ligue, au cours d'un point de presse, a annoncé le report de ce championnat 2014-2015 pour diverses raisons. Entre autres, le financement en paiement des arriérés dus aux arbitres et commissaires au match. Écoutons Valet Glélé, le président de la Ligue professionnelle de football du Bénin, lors de ce point de presse.
La Ligue de football du Bénin est, suivant les dispositions de nos statuts, la seule structure de la Fédération béninoise de football qualifiée à organiser les championnats professionnels de Ligue 1 et Ligue 2. Mais vous aviez tous vu, constaté, et dans quelles conditions le championnat s'est déroulé la saison passée. La mauvaise prestation des arbitres, la subvention tardive des clubs, le sponsoring tant parlé n'a jamais eu lieu. Alors, à cet effet, pour qu'il y ait un championnat, nous avions décidé, avant ce point de presse, d'écrire au président de la Fédération béninoise de football que c'est seule la Ligue du football du Bénin qui est habilitée à faire dérouler le championnat de Ligue 1 et Ligue 2. Le conseil de gestion de la Ligue de football du Bénin et ses commissions ont travaillé toute la saison dernière au siège dans les conditions désastreuses, sans électricité et eau. Le championnat s'est achevé avec des dettes aux arbitres, commissaires aux matchs et aux membres des commissions, car la Ligue n'a bénéficié globalement que d'une subvention de 10 millions de francs CFA pour faire face à ses charges qui sont estimées à 125 millions de nos francs pour son fonctionnement et l'organisation du championnat. De procéder au remboursement des dettes avant la reprise du championnat et de mettre à la disposition de la Ligue une subvention conséquente pour l'organisation du championnat et son fonctionnement, conformément au budget qu'on a transmis à la Fédération béninoise de football. Rien de tout cela n'étant fait malgré les nouvelles ressources reçues par la Fédération béninoise de la FIFA. Et clair et net, nous n'avions rien reçu. On n'a rien perçu. On ne sait où c'est parti. Je suis signataire des comptes, mais je peux vous dire que je n'ai jamais signé quelque chose. Ça se signe entre le président de la Fédération béninoise de football et son secrétaire général. Les ressources du ministère de la Jeunesse et des Sports, nous ne savons où c'est passé. Régler les questions en suspens, à savoir le règlement des sommes dues aux commissaires aux matchs, les arbitres, les membres des commissions et du conseil de gestion de la Ligue de football du Bénin.
Ce qui a été donc presque résolu. Ainsi, le lancement officiel de cette saison 2014-2015 est pour le 27 décembre prochain avec comme affiche Buff du Borgou, champion de la première division contre Béké FC de Bébéréké, champion de la deuxième division. Ce match servira d'inauguration du stade municipal de Parakou, rénové par le chef de l'État. Les autres rencontres de cette première journée se joueront le 10 janvier prochain. Élisée Oumpati, Boycon, La Voix de l'Amérique.
Voilà, temps maintenant de jeter un regard sur l'actualité de l'année 2014, marquée surtout par la Coupe du Monde au Brésil sur le plan du football. Et d'abord, un coup d'arrêt sur la participation des 5 équipes africaines, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Nigeria et le Ghana. J'ai joint à Paris Hervé Penaud du journal L'Équipe.
Ben, j'étais un petit peu déçu par certaines équipes. Hein. On attendait beaucoup plus de l'équipe de Côte d'Ivoire notamment, qui est éliminée à la dernière minute. On attendait bien sûr beaucoup plus, et surtout en termes d'attitude, du Cameroun et du Ghana, hein, avec ce désastre absolu en termes d'image que les équipes ont pu laisser, à la fois sur le terrain en ce qui concerne le Cameroun et en dehors du terrain en ce qui concerne le Ghana. Et puis la belle surprise hein, quand même de cette Coupe du Monde a été l'Algérie. L'Algérie qui a réussi un parcours qu'on n'attendait pas, avec un enthousiasme, une envie de bien faire. Et c'est certainement l'équipe qui a le plus ennuyé l'équipe d'Allemagne, future championne du monde. Donc l'Algérie, mention très bien à l'Algérie, que personne n'attendait à ce niveau-là. En revanche, les autres équipes ont été plus en difficulté. Le Ghana, vraiment, la Côte d'Ivoire et le Cameroun n'ont pas laissé, on a laissé une impression très mitigée. Après, vous avez le Nigeria qui a fait ce qu'il fallait. Et je pense qu'avec un arbitrage meilleur contre la France, on ne sait jamais, ils auraient peut-être pu faire quelque chose. Parce que n'oublions pas que le Nigeria a eu un but refusé. Il y a eu une faute énorme sur Onazi qui n'a pas été sanctionné d'un rouge, qui aurait pu mériter un rouge de la part de Blaise Matuidi. Donc, le Nigeria, c'est une mention passable, ou bien même pour le Nigeria. Et les trois autres équipes, ben, déception.
La plus grosse déception, c'est bien sûr cette génération dorée hein, qui jouait sa dernière Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire.
Bien entendu, la Côte d'Ivoire, on attendait beaucoup plus de cette équipe de Côte d'Ivoire. Et ça y est, une nouvelle fois, déception. Ça s'est joué à peu de choses. Un coaching défaillant aussi, hein, puisque on a bien vu que sur le dernier match, le fait de faire entrer des jeunes joueurs, eh ben, c'était quand même donner les clés d'un match aussi important à des joueurs qui n'avaient pas l'habitude hein, de ce type de rendez-vous. Eh ben, ils ont raté, ils ont pris un but à la dernière seconde sur pénalty. C'est vrai que ça ne joue à rien, à pas grand-chose. Mais les détails, c'est ce qui fait la différence dans le football. Et les détails, quand vous pouvez parfois les maîtriser, ben, c'est pas ce qui s'est passé avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Et puis la gestion du cas Drogba n'a pas été très très bonne, alors qu'il était en bonne forme. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec Chelsea.
En tout cas, Drogba, il n'a pas du tout brillé. Beaucoup ont pensé qu'il partait à la retraite et finalement, il rebondit en Angleterre. Hein.
Absolument, parce que Drogba, vous savez, c'est quelqu'un qui a une croyance en lui, une volonté énorme. Et c'est pas simplement un joueur qui arrive à 37 ans qui se dit oh, « ben, c'est bientôt la retraite ». Non, pas du tout. Vous savez, Didier Drogba, il a réussi cette carrière-là aussi grâce à cette envie de toujours aller plus loin, toujours aller plus haut, et à toujours aller plus vite. Et c'est ce qui l'a amené à revenir à Chelsea. Mais quand il est revenu à Chelsea, il n'est pas revenu dans l'esprit d'un pré-retraité, pensant qu'il allait être troisième sur le banc derrière Diego Costa et le Kremlin. Pas du tout. Pour lui, il a volonté d'être le numéro un. Alors, ça va être difficile, évidemment, de prendre la place de Costa. Mais ce qu'il est en train de réaliser à Chelsea prouve que c'est loin d'être un joueur fini, loin d'être un joueur vieillissant. C'est un joueur qui a encore du poids, de l'impact, et il le prouve semaine après semaine.
Alors, on va donc repartir à Abidjan avec Stéphane C, parce que là, on parle de Didier Drogba, et dans quelques jours, hein, la Côte d'Ivoire va... L'équipe de Côte d'Ivoire va être en regroupement, peut-être sans Didier Drogba, on ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'il s'est dit à Abidjan à son sujet?
Oh, je pense que le débat est clos autour de Didier Drogba. Il a pris sa retraite. L'entraîneur a essayé à une ou deux reprises de le rappeler, mais je pense que l'ancien coach des éléphants va rester sur sa décision, celle de ne pas revenir en équipe nationale, parce que déjà il y a eu un triste épisode avec Zokora Didier Maestro qui a été convoqué sur le dernier match. Sur le dernier match en face à la RDC et le Cameroun pour les éliminatoires, il a refusé de venir. Sur injonction du ministre des Sports, il est revenu, mais Hervé Renard a décidé de ne pas le classer au dernier moment. Bon, tout ça, c'est un peu peinant pour tous ces grands messieurs qui ont porté énormément l'équipe ivoirienne. Didier Drogba ne reviendra pas. C'était sa dernière campagne avec les éléphants. C'est le Coupe du Monde qui, vous l'avez bien dit, est mal terminé. Sorti sur la dernière seconde, les dernières secondes du match face à la Grèce. Ouais. Drogba a donné tout ce qu'il avait à donner. Il ne reviendra pas.
D'accord. Didier Drogba ne reviendra pas au sein des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, Jules, rapidement, hein, qu'est-ce que vous avez retenu de cette Coupe du Monde en quelques secondes?
Oui, mais essentiellement, le naufrage brésilien, une équipe qui a fait des matchs de préparation très, et, disons, très positifs, mais qui est tombé, disons, en demi-finale face à un ogre qu'elle n'attendait pas, et mentalement, elle a craqué. On peut dire que ce jour-là, les dieux sont tombés sur la tête.
Et Salif, qu'est-ce que vous avez retenu?
Cette Coupe du Monde, ce que j'ai retenu, en tout cas, c'est la sortie aussi précipitée du pays organisateur du Brésil, surtout le score large, je n'ai pas besoin de le rappeler, ça a beaucoup marqué les esprits.
Voilà, merci infiniment à tous nos consultants sur le continent. D'abord, Jules Valentin à Libreville, Salif Kabore à Koudougou au Burkina Faso et Stéphane Sey à Abidjan. C'était Bagassi Koura au micro ici à Washington. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour d'autres nouvelles sportives.